Anissé Soké, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui venus à votre rencontre. Nous sommes à Volga Plage. Parlez-nous de votre quartier quelques minutes. Vous savez pourquoi on est là, vous savez ce qui s'est passé. Nous y reviendrons. Je sais que, on va dire que le quartier est pratiquement abattu de cette histoire-là, mais commencez par nous présenter à nouveau le quartier pour ceux qui ne le connaissent pas.
Bien, bon, ben, Volga Plage, c'est un quartier d'environ 3500 personnes qui longe la RN5, mais qui existe avant la RN5. C'est un quartier, un petit village de pêcheurs, c'est un quartier dit populaire, d'habitat spontané, qui s'est créé après la crise de 56, la crise sucrière, tout ça. Et donc, les habitants sont venus vers Aimé Césaire, et puis en espérant aussi l'aubaine du développement urbain de l'époque. Et le quartier s'est construit au fur et à mesure, comme ça, spontanément. Donc, c'est un quartier encore de la politique de la ville, même s'il s'est minéralisé, c'est-à-dire que urbainement il s'est développé, il s'est durcifié, il est amélioré, mais c'est un quartier qui reste encore au rouge au niveau des voyants de l'économie, voyants du chômage, voyants de la délinquance, voyants de la pauvreté, voyants de l'éducation. C'est un quartier qui cumule les difficultés. C'est pour ça que il fait l'objet d'un contrat de ville, donc qui permet de normalement d'attribuer des moyens supplémentaires à son développement. Bon, mais nous on a estimé aux alentours de 2011 que ça n'allait pas, que ça faisait trop longtemps que le quartier était dans cette situation. Et on a monté, on avait monté un projet. Donc un peu avant, on avait déjà monté un collectif qui s'appelait le collectif Volga Plage Territoire Responsable. Ensuite, on a monté un projet et on avait imaginé une porte, une activité qui pourrait permettre au quartier de rattraper un peu son retard, lui permettre de servir de levier de développement. Et donc, c'était autour des berges de la rivière Monsieur, et on avait pensé à l'aménagement des berges. Et donc ensuite, avec la loi de l'AMI 2014, d'ailleurs c'est un ministre qu'on a rencontré, qui nous a permis de participer à la rédaction du rapport qui a donné naissance à cette loi. Et lorsqu'on l'a rencontré, il a donc mis en place un certain nombre de leviers, donc les conseils citoyens, et le nôtre a été créé en 2015, donc après plusieurs rassemblements dans les rues, expliqués, des élections, on a la moitié du conseil qui a été élu et l'autre moitié qui a été tirée au sort, et donc on a créé ce conseil citoyen, dont je suis actuellement le porte-parole. Ensuite, on a continué à travailler sur un projet d'aménagement avec la ville, parce qu'il y avait une obligation de nous concerter aussi, et l'agence des 50 pas, et donc pendant ces concertations, il y avait des urgences et on a créé une agence de développement local, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a cherché des moyens pour apporter de l'ingénierie et être acteur direct de notre développement.
Très bien, Anissé Soké. Vous nous avez dit pendant cette présentation que vous êtes le porte-parole de ce collectif, de toute cette affaire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas que le porte-parole, puisque très souvent vous êtes aussi moteur, pour ne pas dire locomotive, de toute cette affaire-là. Qui êtes-vous exactement ? Vous êtes tombé dans cette affaire sociale, pourquoi ? Parce que vous y étiez là ou vous avez une formation au départ liée à cela ?
Alors oui, il faut bien comprendre. Moi, pour être plus clair, depuis 2001, j'avais participé à la campagne avec Serge Letchimy, et qui m'avait intégré à la ville de Fort-de-France. Et j'ai passé 12 années au cabinet de Serge Letchimy, du maire, et à m'occuper de proximité. Donc, j'ai vu les problématiques des quartiers, j'ai été formé déjà à ça. J'ai aussi un diplôme en ingénierie sociale urbaine. Donc, je suis ingénieur social urbain de formation, et d'ailleurs, que j'ai continué, puisque j'ai après eu un MBA en économie de l'université de Sherbrooke. Et moi, en 2007, après Dean, j'avais été choqué de voir des camions passer dans les rues du quartier, et en envoyer de la nourriture aux gens, des choses comme ça, etc. Et ça m'avait renvoyé un questionnement à moi-même. Et donc, avec Marius Etilé, Joël Richid, d'autres personnes à l'époque, on avait décidé de qu'on pouvait se prendre en main, quoi, qu'on pouvait pas attendre des autres ce qu'on voulait nous.
Ça veut dire que vous êtes du quartier aussi, à Nice?
Oui, je suis né à Volga-Plage. Je suis né, j'ai grandi et j'habite à Volga-Plage. Oui, oui, je suis du quartier. Hein. Et donc je connais les gens et c'est pour ça que ça m'avait touché. Et donc j'avais décidé de m'investir sur le quartier. En 2012, vers 2012, j'avais décidé de ne plus continuer avec la ville. Donc j'avais créé ma petite entreprise et...
D'insertion ?
Non, c'était de sécurité. J'avais d'abord fait un travail sur une enquête et tout ça, et j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise de sécurité, mais je suis passé par les leviers d'insertion, etc., tout ça. Et ensuite, j'avais commencé ce travail d'engagement avec les projets dont je vous ai parlé sur le territoire. Et j'ai continué à m'engager. Et donc, on a pensé qu'il serait bon de créer cette fameuse agence de développement local. Donc j'avais les compétences pour la gérer. Au début, je voulais en être que le président. Et ensuite, il fallait coordonner l'agence et donc le Conseil citoyen m'avait demandé de prendre la direction de cette agence. Et donc on avait confié la direction, la présidence à Guy-Albert Gabé, qui est l'actuel président d'ailleurs, qui est un président aussi de l'AMHPC, qui avait l'habitude de faire de l'insertion, des choses comme ça, et qui avait une quinzaine de jeunes en insertion déjà. Et ensuite, donc moi j'ai pris la coordination, et on a monté plusieurs choses, des dossiers, un dossier qui s'appelle Résilience, qui était un projet intermédiaire de l'aménagement, parce qu'on ne sait pas, l'aménagement ça va commencer, mais on ne sait pas quand, donc qui répondait immédiatement aux attentes, aux besoins des habitants qui étaient sur place. Et donc on a mis en place plusieurs partenariats. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps de négociation, voire même d'années. Et on a mis en place une convention pour, y compris avec la ville et l'État, pour la délégation de la maîtrise d'ouvrage de ce projet Résilience. Et donc il y a dans ce projet une ACI, un ACI, un atelier chantier d'insertion, qui s'appelle En l'autre coudier, c'est-à-dire un autre regard sur Volga-Plage. Et on a commencé à construire, les jeunes qu'on a actuellement dans cette ACI-là sont des jeunes qui étaient très loin des institutions. Ils étaient très loin, pour beaucoup.
Pour ne pas dire très, 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 très loin.
Ah oui, pour beaucoup, ils étaient très, très, très loin des institutions. On a commencé à faire un travail avec eux. C'est un travail qui est difficile, pour eux comme pour nous, parce que c'est un travail qui demande des moyens. Il y a toute une dynamique d'inclusion à faire, une dynamique d'accompagnement, de remobilisation, de réinsertion, de socialisation, etc. Et ces moyens-là, aujourd'hui, on ne les a pas. Et donc, on est en train de se battre là-dessus, mais en même temps, on essaie de contrebalancer ça avec une démarche de solidarité vis-à-vis des personnes âgées de Volga-Plage qui sont dans des situations de précarité, donc, c'est-à-dire de la réhabilitation de logements pour des personnes en grande difficulté.
Oui, si je comprends bien, et je crois que vous diffusez de temps en temps sur le Facebook de l'association et sur votre Facebook également, vous réparez des toitures de maison pour les personnes âgées, vous embellissez le quartier, vous le nettoyez, vous le carchérisez, vous essayez de le rendre plus humain. Alors, tout ça c'est très bien, mais pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi on est là aujourd'hui à Nice, on va essayer aussi de faire le pas en 2019 et en particulier au mois de mai. C'est-à-dire que ce mois-ci, il se trouve qu'une fille, une demoiselle Moreau, d'après ce que j'ai compris, oui. Son prénom
Mirella.
Mirella serait tombée à Volga, alors que c'est pas son quartier. Elle était venue, disons, à un anniversaire, celui de sa sœur. Elle était sur un espace public et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Racontez-nous ça.
Ben oui. de dramatique aussi. Ben en fait, ce qui s'est passé là, ce jour, alors je n'étais pas là, il faut savoir que je n'étais pas là ce jour-là, mais ça aurait pu. C'est parce que je n'étais pas sur le département, parce que c'était l'anniversaire de sa sœur, et Micheline, que je connais très bien. Et donc, ils étaient dans cet anniversaire avec leurs enfants, son compagnon et tout. Et des individus ont débarqué sur la place des Amandiers, en mode commando, et avec des groupes qui venaient de différentes rues, et ont ouvert le feu.
Quand vous dites en mode commando, ça veut dire quoi, Nice?
Ça veut dire que des attitudes, comment dire, d'approche tactique. Des attitudes d'approche tactique.
En cagoulé,
armé. En tenue, armé, avec des armes d'assaut. Vraiment, là, on parle de choses qu'on voit dans d'autres... Dans d'autres domaines sur le territoire national.
Je reprends ce que vous dites. Vous dites qu'en fait, dans ce qu'on vous a rapporté, puisque vous dites bien que vous n'étiez pas là, un commando a débarqué dans le quartier. C'est-à-dire que c'est pas un règlement de compte entre jeunes du quartier, quoi. Il s'agit pas de ça. C'est-à-dire, il s'agit pas de, disons, de vagabonnagerie, de voyoucratie, de, disons, de délinquance urbaine. Vous nous décrivez là une scène de terreur ou de terrorisme.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fin de compte, ce qui se passe ce jour-là, c'est quelque chose qui a laissé tout le monde sans voix. Et quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Même les gars du quartier qui connaissaient des choses, qui ont déjà vu toutes sortes de choses, ils sont restés sans voix. Un commando tactique arrive sur le quartier, par différentes voies, ensuite ça se met en place et se met à tirer dans le quartier.
C'était On a parlé de coups de feu avec des armes automatiques.
Oui, des armes d'assaut. Ils ont commencé à tirer avec des armes d'assaut. C'est une scène de terreur et c'est là que quelqu'un tombe. Elle tombe avec son enfant dans ses bras et impossible de la réanimer après. Les tirs sont faits à hauteur humaine. C'est pas des tirs en l'air ou des tirs d'intimidation. Donc il faut bien comprendre ça.
Mais c'était quoi? Je suppose que vous ne connaissez pas forcément leur motif, leur mobile. Enfin, vous devinez quand même. Ils étaient venus tuer ou ils étaient venus chercher quelqu'un?
Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire ce qu'ils étaient venus faire exactement. Ce que je sais, c'est ce qu'on m'a rapporté. Alors, il semble qu'il y ait, des dessous de règlement de compte ou des choses comme ça, mais c'est vraiment à la justice ou à la police de faire ce travail-là. Ce que je sais, c'est que les gens qui sont venus faire ça ont envoyé un message. Ils ont envoyé un message à tout le monde. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est plus de la délinquance, c'est du terrorisme. C'est qu'on arrive à un niveau où je ne sais pas qui c'est qui peut faire face à ces gens-là. Des gens aussi déterminés, aussi préparés et aussi...
Tactiques, armés,
déterminés. Écoutez, moi jusqu'à maintenant, nous on se battait pour le développement local. On pensait qu'on pouvait être acteur de notre destin. On a fait des choses sous l'angle économique, social, etc., culturel.
Réinsertion, berge,
réinsertion,
beauté.
Ah oui, beauté, tout ça, nouveau regard.
Nettoyer le quartier.
Nettoyer, citoyenneté, etc. Ça, on sait faire. Mais là, c'est un plafond de verre pour nous. C'est un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on fait... Il y a un plafond de verre parce qu'on fait 10 pas en avant, 12 en arrière. 10 pas en avant, 12 en arrière.
Oui, alors Anissé, ça vous a d'autant plus touché qu'il y a de cela quelques mois, une autre personne était tombée à Volga. Là, c'était, disons, encore de la délinquance, on va dire, urbaine, même si c'est inacceptable, mais c'était dans les habitudes, c'est-à-dire c'est un type, on lui colle un flingue et puis on l'explose, quoi. C'est-à-dire qu'on vient chercher une personne et ils font un travail. Tandis que là, si je comprends bien ce que vous nous dites, on y est allé à la rafale d'armes automatiques à hauteur d'homme, dans le quartier, dans la rue, sur la place publique, parmi les sandwichs, parmi les pizzas, parmi les grandes personnes, parmi tous ceux qui étaient là, quoi. C'est-à-dire que ça qui t'est pris, quoi.
C'est exactement ce qu'on m'a rapporté. ce que je veux dire, déjà que c'était inacceptable qu'on tue quelqu'un à bout touchant dans le quartier. Déjà que c'était inacceptable, et puis qu'on ne sache pas qui. Déjà que c'était inacceptable que quelqu'un que personne ne connaît vienne là mourir de 4 balles. Et que personne ne sait jusqu'à maintenant de qui il s'agit. Et on ne sait pas toujours pas qui. Déjà que le jeune Danny vienne mourir là de 16 balles dans le corps après 19 tirs, c'était déjà inacceptable. Et pourtant, on ne sait pas qui. Déjà que quand Mackenzie, un petit jeune du haut, vient à mourir pendant le carnaval au Mardi Gras, de plusieurs balles dans le corps, c'était inacceptable. Et même si on peut, aujourd'hui, on ne sait pas qui. Déjà qu'il est inacceptable que des meurtres comme ça, en une période d'un an à peu près, que plusieurs meurtres comme ça se fassent et qu'on ne sait pas qui. Mais là, derrière, il y a carrément un message de terreur qui est donné. Écoutez, pendant que je vous parle là, quel message qui m'a été envoyé à moi? Quel message qui a été envoyé aux forces des quartiers? Les jeunes qu'on emploie, quel message qui leur est envoyé? Vous voyez, il y a un message de terreur là. Il y a un message de... Il y a des gens qui... On n'est pas dans une société de droit. Alors moi, je veux pas aller décrire ou aller parler de ça. Je dis que...
Et puis, il ne s'agit pas non plus de faire de la provocation. Oui. Je dis, vous êtes un ingénieur social, voilà. Vous êtes en train de faire une mission... Et vous voyez saboter vous aussi votre travail, c'est-à-dire que vous-même dans la démarche, la dynamique, je veux dire, vous aussi vous êtes blessé, quoi.
Mais je suis complètement blessé. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour arriver là. Ça fait 10 ans qu'on se bat et on fait un bond en arrière. 10 ans. Je sais pas, mais il faut bien comprendre. Je dis que après 2007, on s'est indigné, on a créé un collectif. En 2009, après 2009, on s'est organisé. En 2011, on a présenté un avant-projet sommaire chiffré de l'aménagement du quartier. 2011, on est en 19. Excusez-moi. Ce sont des années de combat acharné pour dire qu'on veut un lot Volga. Et là, on se renvoie en arrière. Alors moi, je suis loin de pouvoir, je ne suis pas capable de me défendre face à ces gars-là, je suis loin de pouvoir faire de la provocation. Mais ce que je peux faire, moi, en tant qu'humain, debout sur la planète Terre, c'est dire quel genre de société dans laquelle on vit, quel genre de société dans laquelle ma génération peut léguer à ses enfants, et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Moi, je veux m'arrêter aujourd'hui. Je veux qu'on s'arrête là.
Alors, Anissé, vous savez que nous sommes généralement toujours en contact puisqu'on suit ce que vous faites sur notre webzine, généralement en vous donnant la parole régulièrement, en prenant contact avec vous, en essayant de soutenir ce que vous faites. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que non seulement aujourd'hui vous êtes blessé dans votre action, mais vous êtes arrivé presque à un niveau de découragement. Où vous dites, nous, il n'est pas question qu'on fasse de marche blanche, il n'est pas question qu'on fasse de wélélélé, de marcher derrière des cercueils, des trucs et compagnie. Ce qu'on veut, c'est que, d'une part, les autorités prennent leurs responsabilités parce que, de ce que vous nous avez expliqué, en plus de toutes les difficultés du quartier que vous avez, il se trouve qu'aujourd'hui, par rapport aux actions même que vous menez, il y a des difficultés institutionnelles qui font que des gens qui vous avaient fait des promesses ne suivent pas et ne payent pas, notamment leur part de responsabilité. Est-ce que vous pouvez témoigner de cette affaire?
Ah non, mais c'est clair, ils le savent. Moi, j'ai des PV que j'envoie à tous les partenaires tous les lundis parce qu'on fait un bureau de projet. Ils le savent, ils savent qu'on n'a plus de trésorerie et qu'on est bien à mal actuellement. On a un mal fou à demander aux autorités de payer leur quote-part sur lequel ils se sont engagés. Hein. Je parle que de ça, je ne dis pas que dans des dispositifs institutionnels. Oui, on est non seulement on se bat, on se bat politiquement déjà pour l'idée l'initiative au niveau territorial. C'est-à-dire que le fait de co-construire, de prendre une initiative, de travailler sur un territoire et puis de dire qu'on va apporter des choses, politiquement, cette initiative-là, déjà, on a du mal avec. Après, on a la machine institutionnelle en face. Donc, c'est vraiment... Donc, quand on se bat avec la machine institutionnelle sans avoir l'appui politique, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens nous renvoient des décrets, des arrêtés, des circulaires, des trucs. C'est pas bon dans ce mode-là. Et on a toutes les personnes, tous nos interlocuteurs sont des petits chefs. Donc, ensuite, quand on a fini... avec l'administration, quand on a un coup de main, alors je ne veux pas cracher sur l'administration, je ne sais pas du tout ce que je fais, il y a des techniciens, je peux en citer 2-3, qui nous soutiennent, qui essaient de faire avancer les choses, mais ça ne suffit pas, parce qu'on ne va pas assez vite pour nous empêcher de tomber. Quand on a fini, on a le corporatisme, les gens qui estiment que ce sont leur métier de faire ce genre de choses et qu'on ne serait pas qualifié pour intervenir sur ce genre de choses et qui sont rattachés à un champ institutionnel, qui ne comprennent pas qu'on est en train de porter une action émergente et que c'est, la difficulté est là parce qu'on porte une action émergente et qu'on ne peut pas se rattacher au cadre normal institutionnel et qu'il nous faut de l'appui politique. Et donc, ces personnes même qui travaillent avec vous, deviennent des relais de l'institution chez vous. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et ce qui amène un arrêt complet, ce sont exactement les dispositifs qui n'ont pas marché depuis 40 ans, qui risquent de se répéter. Donc, nous, on voudrait changer ça. Et derrière, donc là, aujourd'hui, vraiment, on a un vrai combat. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'on a une crise politique. C'est de notoriété publique, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Nos dirigeants, soit ils s'occupent de leurs affaires, des affaires qu'ils ont en cours, ou soit ils se font la guerre entre eux. Donc on a un problème avec ça. Cette crise politique ramène une crise institutionnelle. S'il n'y a pas d'impulsion politique, s'ils sont suffisamment occupés à se faire la guerre ou à gérer leurs affaires, ils ne peuvent pas apporter d'impulsion politique. Et s'ils ne peuvent pas apporter d'impulsion politique, toutes les initiatives citoyennes ont directement le poids de l'administration à gérer. C'est pour ça que toutes les associations meurent aujourd'hui. Il n'y a rien, aucune réponse. Et à partir du moment où on a cette crise politique et crise institutionnelle, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Donc, il faut qu'on arrête. On ne peut plus avoir un système qui crée des bombes humaines. On a une radicalisation de la jeunesse qui va continuer. Le cercle n'est pas encore rompu. On a une génération qui est suffisamment mature, mais celle qui arrive n'est pas encore protégée. Donc là, on a un bac percé là. Donc rien, on a un cercle vicieux et rien n'est fait là pour arrêter ça. On a beau se battre sur ce territoire, si on n'a pas compris le sens de notre combat. Il faut, malheureusement, c'est seulement quand il y a des cas comme cela qui mettent en émoi toute la population, c'est à ce moment-là que les gens comprennent, disent « Ah, mais peut-être que ce qu'il est en train de faire, ça met en lumière tout ce qu'on fait. » Non, il faut aujourd'hui qu'on protège les gens qui travaillent avec nous. Les jeunes même qu'on a pris en insertion, on ne peut pas leur demander d'être près de la rue, ou etc., etc., s'ils sont dans des climats où ils doivent des injonctions à des gens qui sont extrêmement déterminés. Non. Donc, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on arrête ça. C'est tout ça là, qu'on se pose 2 minutes et puis qu'on dise qu'on ne peut pas être dans une situation entre personnes intelligentes, normalement, dans ce pays-là, et à regarder les gens tomber. À regarder les jeunes tomber, les mamans. Hein. Vous savez ce qui va se passer? Si on n'arrête pas ça maintenant, là, ce qui va se passer, c'est que ça va éclater en fusillade avec des armes d'assaut dans les rues de centre-ville ou ailleurs. On a vu déjà ce que ça a donné sur les leader price, etc., tout ça. Donc, il faut s'arrêter. Il y a des concessions, il y a des choses sur lesquelles on doit faire des concessions. On doit être d'accord sur un certain nombre de choses, peu importe la guerre politique. On doit être d'accord sur la sécurité des gens. On doit être d'accord sur la sécurité des
Oui, Anissé. Non, mais viens, attends, viens. Non, mais. Non, pour vous dire un peu ce qui se passe, c'est que Anissé, que nous sommes en train d'interviewer, a. Viens, Anissé. S'est mis à pleurer, en fait. S'est mis à pleurer sur la situation des choses. Et Et je crois qu'il faut, ce qui est important, à Nice, ce qui est important, c'est que le message soit terminé. Allons terminer le message, allons le terminer. Non, allons terminer le message. Non, on termine le message. Alors, on termine le message, à Nice, on termine le message. On termine le message, parce qu'il faut aller au bout de ce message. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, à Nice, dire ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu exactement? Mercredi, vous faites une réunion, c'est bien cela? Allons-y, on continue.
Regarde, salut vous, regarde, laisse-moi te dire un truc. Mercredi, là, on a invité tout le monde au fin de temps là pour dire stop, ça suffit. On a une réunion qui est prévue. J'ai rencontré les forces de l'ordre, j'ai rencontré le préfet, je lui ai demandé de sécuriser pour nous ça. Il s'est engagé là-dessus, donc il y aura ce sera vraiment sécurisé, les forces de l'ordre seront là. Donc j'ai envie de dire aux gens, n'ayez pas peur de venir. Et puis on va poser les choses, on s'arrête, on va poser les choses. On a invité tous les élus.
Tous les élus, c'est qui?
C'est la CTM, la CACEM, la mairie de Fort-de-France, on a invité aussi le rectorat, le préfet donc, les services de la justice, procureur, premier vice-président de cour d'appel. On a invité, invité le, donc les, j'ai dit
les
le rectorat.
Institutions,
les oui,
institutions.
Les institutions, tous ceux qui ont un rôle dans l'inclusion, dans l'insertion, dans la sécurité, la prévention et l'éducation. Donc, qui sont les clés qui peuvent nous permettre d'empêcher de fabriquer des bombes humaines. Donc, et on a invité toutes ces personnes-là, et on espère que ces personnes-là viendront, mais en tout cas, on a invité aussi toute la population. On a invité, c'est dans de la co-construction, on ne va pas mettre des gens dans des tables devant les gens à jouer des rôles, etc. Les gens pourront avoir du temps de parole pour répondre si quelqu'un les interpelle. Nous, on peut s'engager sur du respect de ces gens-là, mais il va falloir un débat riche, parfois peut-être même intense, mais il va falloir qu'on pose ces questions-là et dire qu'on ne peut pas se regarder, on ne peut pas se regarder comme ça et on ne peut pas laisser les choses comme ça. Voilà.
Merci, Anissé. Nous serons là mercredi.